Puis moi, mon langage d'amour, c'est les cadeaux, en toute honnêteté, pour ceux qui ont levé la main. Je suis dans votre équipe. Donc, mon langage d'amour, c'est les cadeaux. Et j'aime donner des cadeaux, mais j'aime beaucoup en recevoir aussi. Ça me fait du bien. Puis vous savez, moi, je suis marié depuis 13 ans à ma formidable épouse Émilie. Et c'était toujours quelque chose, quand on était en fréquentation, les premières fois, parce qu'on allait se donner des cadeaux. Parce que là, j'apprends à la connaître, puis là, ça va passer ou ça va casser. Hein? Comment les Noëls vont se passer avec cette fille-là? Donc moi, je prends le temps d'acheter mes cadeaux, tout mon concept, je me prépare à l'avance. Je n'achète pas la semaine avant Noël. Non. Je prends mon temps pour choisir mon cadeau. T'sais, des fois, il était comme, wow, mon Dieu, ce gars-là avait des cadeaux. Hein? Est-ce que je vais réussir à la côté? Mais mon épouse est très formidable, puis elle me fait toujours des très beaux cadeaux. Et pour l'anecdote que je vais vous raconter, elle m'a donné sa permission. C'est notre deuxième Noël, deuxième année de fréquentation. On n'est pas encore mariés. Je lui donne un super beau cadeau. Je ne me rappelle pas c'est quoi en toute honnêteté. Mais j'appréhende son cadeau. Donc, je l'ai même amené ce matin pour vous donner une idée. Elle avait très bien emballé, mais j'ai gardé la boîte comme un beau souvenir. Donc, c'est un cadeau qui arrive avec un sac Foot Locker. Vous savez, moi, je suis un joueur de basketball. Oh, Foot Locker, ça vient déjà me chercher. Elle commence à avoir gagné des points au niveau du cadeau. Je sors le cadeau. Oh, wow, c'est une boîte de chaussures. Est-ce que ça va être les Kobe Bryant, les LeBron James, les Kyrie, les joueurs de basket, vous me rejoignez ici, les Jordan? Fait que là, je suis en mode, wow, cette fille-là, je vais la marier, c'est certain. Je prends la boîte, mesdames et messieurs. Je lui dis déjà merci, j'ai pas encore vu le cadeau, vous imaginez? J'ouvre la boîte. Des patins. Je sais que j'ai l'air de piquer Subban avec mon ton balzané, mais je ne sais pas patiner. Cette fille me donne des patins. Puis quand on reçoit un cadeau qu'on n'aime pas, vous savez le visage chrétien qu'on fait? « Oh, merci! » Mais elle l'avoue aujourd'hui, 13 ans plus tard, c'était un peu pour elle, le cadeau. Parce qu'elle veut qu'on aille patiner, elle trouve ça romantique. Et ironiquement, j'ai fait ma demande en mariage en patin. Oui. C'était très beau à voir, là, je me tenais, là, c'était en tout cas bref. Mais juste pour vous dire... On a ce rapport avec Noël où ce qu'on attend de recevoir quelque chose. On attend tous de recevoir quelque chose, de passer du bon temps, de passer du bon temps en famille. Puis c'est super, moi j'y crois. Mais est-ce qu'on a perdu des fois le vrai sens de Noël, qui est une fête qui est liée à l'adoration? Moi j'y crois. Noël est lié avec l'adoration. Puis si vous êtes ici ce matin, il y a des grandes chances que vous aimez Noël. Plusieurs d'entre vous ne l'aimez pas, vous avez le droit. Mais honnêtement, il n'y a personne d'entre nous qui dise « J'ai hâte à Noël parce que Noël pour moi, c'est une fête d'adoration. J'ai juste hâte de me lever le 25 décembre et de passer une journée d'adoration. » Non. Mais avec le texte que l'on va lire ce matin, on voit à quel point les rois mages, les mages, lorsqu'ils sont allés à la rencontre de Jésus, on voit qu'il y avait, l'adoration était au centre de cette rencontre avec Jésus. Matthieu 2, chapitre 1 à 12, les versets vont apparaître à l'écran. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage, l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. » Et on va parler de ce texte-là en particulier la semaine prochaine, ne manquez pas ça. « Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. » Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir, pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Répétez, mosaïque, remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrir en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. On connaît tous cette histoire, hein? La naissance de Jésus, le petit Jésus dans la crèche, comme plusieurs diraient. Mais ce matin, le message se résume en trois points. Le voleur d'adoration, la joie derrière l'adoration et le concret de l'adoration. Parce que lorsqu'on lit ce texte, on ne peut pas ne pas parler d'Hérode. Hérode, cet homme-là qui est orgueilleux, qui veut justement que l'adoration lui revienne, qui n'est pas content, qui est troublé, nous dit le texte, de savoir que le roi des Juifs va naître. Et Hérode a passé plus de 30 ans au pouvoir. C'est un homme politique qui était, il paraît selon les historiens, un homme très, très, très compétent. Et il a reçu par les Romains, parce que c'est les Romains qui ont mis Hérode en place, un peu pour, comme une marionnette pour lui dire, voici ce que tu vas faire, Hérode, voici, comment, voici la marge de manœuvre qu'on va donner au peuple juif. Mais ils l'ont nommé le roi des Juifs. Mais les Juifs n'ont jamais accepté. Les Juifs étaient comme, c'est les Romains qui t'ont imposé. Nous, on ne t'aurait pas choisi, Hérode. Il était connu comme étant un grand bâtisseur. Grand bâtisseur, faisant des gros, gros, gros projets, mais un destructeur de vie. Hérode a tué plusieurs de ses propres enfants et une de ses épouses. On dira ce qu'on voudra. Un homme qui agit comme ça, puis on sait ce qui a pris place par la suite. Hérode voulait s'assurer que le Messie, les bébés ne naissent pas. Donc Hérode a fait des actes atroces. On dira ce qu'on voudra. Hérode est habité par le diable. Hérode est un homme qui est habité par le diable. Là, vous me dites, Pasteur Emmanuel, le diable, je ne m'attendais pas que tu parles du diable ce matin. J'ai invité quelqu'un pour la première fois, puis toi tu parles du diable. On peut-tu être un peu plus accessible pour tout le monde? Mais vous savez, si on regarde à travers un contexte géopolitique moderne, une situation qui est arrivée il y a quelques années, puis des situations parallèles qui arrivent encore aujourd'hui dans le monde. 800 000 à 1 million de personnes ont été tuées au Rwanda dans un génocide. Le général Roméo Dallaire, son image va apparaître à l'écran, pourra vous dire, puis il a même écrit dans son livre, qu'il a serré la main du diable. Quand un acte comme ça où 800 000 personnes, 1 million de personnes sont tuées, qu'est-ce qu'il a dit? Roméo Dallaire, à ce que je cherche, ce n'est pas un homme qui est chrétien engagé, peut-être qu'il l'est, mais qu'est-ce qu'il dit? J'ai serré la main du diable. Et tout le monde l'invite sur les plateaux pour parler de son expérience, là. Puis tout le monde est capable de dire, oh non, non, ce qui a pris place, là, c'est diabolique, là. Et tout d'un coup, même si on ne croit pas en Dieu, on est capable de dire, non, 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 ça c'est quelque chose, c'est un acte diabolique. Mais souvent, ce qu'on fait, nous, les Nord-Américains, ou ceux qui habitent ici, au Québec, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on tout ce qui est en lien avec le spirituel, avec le diable, on associe ça à ce qui se passe ailleurs dans le monde, pas chez nous. Mais vous savez quoi? C'est le rôle du diable, ça. Il veut justement nous faire croire, « Oh non, 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 je ne suis pas là, là, moi, il n'est pas présent, il n'est pas ici. » Non, 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 il veut justement se cacher pour pas qu'on réalise qu'il a une emprise, le diable, encore aujourd'hui. Le rôle du diable, c'est de nous empêcher d'adorer Dieu, que ce soit physiquement, en allant à l'église ou en louant comme on l'a fait ce matin. Ça, c'est son rôle, lui. Et lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on lève les mains, c'est une représentation, oui, physique, mais intérieure de notre amour envers Dieu. Le diable veut nous amener à adorer autre chose que Dieu. Notre argent, nos carrières, nos biens matériels, les gens qui nous entourent à les adorer plus que Dieu, à les vénérer plus que Dieu. Nos dépendances vont prendre tellement de place dans nos vies que ça nous empêche de progresser, d'avancer avec Dieu qui amène un joug, une condamnation. Notre confort où on est tellement bien, puis on ne veut pas bousculer, on ne veut pas aller plus loin dans notre démarche spirituelle. Ça, c'est assez, puis ma petite routine. Puis notre confort, il veut nous amener à juste rester dans notre confort. Et finalement, il veut nous amener à nous adorer, nous, moi-même, le Dieu du « moi ». Ultimement, il veut nous éloigner de Dieu. Il veut nous garder dans une tiédeur spirituelle. Et moi, je ne peux pas être un pasteur en 2022 et pas dire ce que la Bible dit. Donc, il faut, lorsqu'on parle d'un texte comme la naissance de Jésus, il faut en être conscient. 1 Pierre 5, verset 8 dira, « Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui. » En demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Un texte hors de son contexte devient un prétexte. Lorsque l'apôtre Pierre, écrit ça, il s'adresse à des chrétiens qui sont persécutés, qui sont très souvent donnés au lion, des fois persécutés, tués pour leur foi en Dieu. Et il les invite, il utilise cette image-là du lion, puis nous, on ne comprend pas nécessairement pourquoi, mais il est intentionnel pour les faire comprendre que, oui, mais le diable aussi, lui, agit comme ça. Il y a le côté physique où est-ce qu'on va être tué pour notre foi, mais il y a le côté spirituel aussi, parce qu'il sait que ces chrétiens-là, ils ont besoin d'être encouragés, de continuer de persévérer, de continuer de prier. Il sait que même dans l'Église, bien, il y a des chicanes qui vont pogner. L'ennemi, le diable, va des fois utiliser même des chrétiens pour causer de la bisbille, des chicanes, puis on le voit dans les Écritures, ça arrive. Et il nous dit de quoi? Ne soyez pas distraits. Restez vigilant. Ça s'applique tellement à notre époque aujourd'hui. Dans une société du loisir, dans une société où on veut tellement avoir du fun, oui, c'est bien, puis j'y crois, là, mais l'ennemi facilement peut nous distraire. Lorsqu'on veut nourrir le moi, mes besoins, mes demandes, mes recommandations, ce qui est important pour moi. N'oublions pas qu'on ne doit pas être distrait. Il faut être conscient aujourd'hui, même en 2022, qu'il y a des forces spirituelles qui veulent nous empêcher d'adorer le Messie. Deuxièmement, il y a une joie derrière l'adoration. Il y a une joie qui vient avec l'adoration. Les mages, c'était, oui, des savants, oui, des hommes très brillants, mais c'était aussi des astrologues, donc des gens qui avaient une certaine science par rapport à la foi, à la compréhension de pourquoi le monde existe. Et ce n'était pas des juifs. Le texte est intentionnel pour nous dire, peu importe tes croyances, peu importe ta religion, peu importe d'où tu viens, ces hommes-là vont venir adorer le Messie, le roi des rois. Et vous savez, on parle de Noël qui est là et tout ça, puis avec Noël vient un certain stress. Est-ce qu'il y en a que ça vous stresse un peu, Noël, en toute honnêteté? Ça vient avec un certain stress. Moi, j'ai été élevé par une maman monoparentale, puis je me rappelle le stress qu'elle vivait, sachant qu'on devait participer des fois à un échange de cadeaux avec nos familles. Elle n'avait pas beaucoup de moyens. Puis moi, je la voyais stressée. Puis j'étais un enfant, j'espérais recevoir mes cadeaux. Puis je me rappelle ma mère de nous dire, ah, cette année, je vais vous donner vos cadeaux, mais ça va être dans 2 semaines quand je vais avoir ma paye. Donc, ça nous amenait un certain stress de voir ma mère comment elle vivait ça. Puis je le sais, c'est quoi? Il y a une étude qui a été faite, l'échelle de Holmes et Rye, je m'excuse si je prononce mal son nom, et l'échelle de Holmes et Rye est utilisée pour calculer le niveau de stress et déterminer la probabilité que la santé soit affectée au cours de l'année qui va venir. Donc, par exemple, le décès d'un conjoint, c'est une des choses qui fait que vous allez vivre beaucoup plus de stress au courant d'une année, c'est 100 points par exemple. Un divorce, 73 points. Une séparation, 65 points. Une grossesse, qui est une belle chose, mais ça vient avec un certain stress, 40 points. Problème avec les beaux-parents, 29 points. Noël, 12 points. Ce n'est pas au top de la liste, mais ça dépend, parce que si vous avez des problèmes avec vos beaux-parents, ça augmente les points. Si vous appréhendez Noël, puis vous savez que vous avez un cousin ou un beau-frère qui veut toujours chercher de la chicane, puis parler de sujets touchy ou qui est toujours en train de vous narguer, oups, ça augmente le nombre de points. Vous comprenez à quel point Noël, dans notre société, même pour nous les chrétiens, est devenu une raison de stress, justement. Ben, est-ce que je vais avoir assez ça? Est-ce que je vais avoir les moyens? Il faut que j'achète des cadeaux? Puis tout ça, puis tout le stress qui vient avec, puis toute la folie. Mais est-ce qu'on a oublié que c'est une bonne nouvelle, Noël? C'est une saison pour adorer le Créateur de l'univers, pour adorer la bonne nouvelle qui est Jésus. Est-ce qu'on a perdu cette notion-là? Puis juste pour nous ramener des fois un peu sur terre, si je vous invite à aller assister à un concert de vos artistes préférés ou une personne que vous admirez, un conférencier ou autre, puis que je vous dis, en plus de ça, après le concert ou la conférence, cette personne-là va vous inviter chez elle, vous allez avoir de la joie. Vous n'allez pas dire, oh, c'est très, merci. Non, non, vous allez être comme, yes! Vous allez lever vos mains dans les airs, vous allez applaudir, vous allez le dire à tout le monde, vous allez être hyper excité. Puis je sais, oui, ça fait plusieurs années que vous vivez des Noëls, puis vous n'allez peut-être pas être comme ça cette année, mais que intérieurement ou spirituellement, le Saint-Esprit peut nous causer ça, qu'on réalise que Noël, ce n'est pas seulement une fête commerciale, c'est avant tout une bonne nouvelle. Puis vous savez, lorsqu'on lit un texte comme ça, on regarde l'image de l'étoile. Il y a une étoile qui a guidé les mages. L'étoile les a dirigés à la naissance de Jésus. Et dans les Écritures, c'est pas nécessairement, lorsqu'on regarde le texte original, l'étoile n'est pas nommée. C'est pas une étoile comme nous, les Nord-Américains, on peut le voir. L'étoile, c'était comme une colonne de feu. La même colonne de feu qui est comparable quand les Israélites étaient dans le désert. Ils avaient besoin d'être guidés pendant 400 ans. Ils ont erré, ils n'ont pas toujours écouté Dieu. Mais c'est la même colonne de feu, le même terme qui est utilisé pour les mages. C'est tellement une bonne image pour nous dire que cette adoration, Dieu veut nous guider vers l'adoration. Et non seulement il veut nous guider vers l'adoration, il veut nous guider vers la vraie personne qu'il va qu'on doit adorer. Il veut nous guider, il va nous guider dans les moments de notre vie. Même dans les moments difficiles, il va te guider. Comme le disait très bien Valérie, qu'on puisse avoir des moments pour l'adorer, puis ça va tout le monde nous aider à passer à travers la vie. Vous savez, moi, il y a quelques Noëls de cela. Je me rappelle, Noël s'en venait. Puis nous, on essayait d'avoir un enfant. Puis on a essayé tout au long de l'année, puis c'était tough, ça ne marchait pas, mais mon épouse avait fait une fausse couche. Puis j'appréhendais les commentaires des membres de la famille. Les commentaires désobligeants, les commentaires de « mais mon Dieu, c'était bien long, comment vous ne savez pas comment faire, etc. » Non, c'est pas drôle. Les commentaires blessants comme ça. On les appréhendait. Mais j'avais ce réflexe-là, puis je me rappelle, c'était un moment de colère, encore une fois, envers Dieu en toute honnêteté, de ne comprendre pas pourquoi ça arrive encore. Mais à ce moment-là, j'avais envie de mettre mes écouteurs, puis j'ai mis de la louange, j'ai mis de la musique, j'ai mis de l'adoration dans mes oreilles. J'étais allé dehors, on venait d'avoir une tempête, puis j'étais en train de pelleter. Je pelletais, puis je chantais, puis je priais, puis je vidais mon cœur à Dieu. Mais à un moment donné, il y a un artiste chrétien qui a commencé avec une chanson, puis juste avant de chanter, il raconte l'histoire de son fils qui est mort. De son fils qui est mort du cancer, qui est mort. Son fils était un enfant là, qui était mort. Et puis lui, dans ce chant-là, il proclamait le Dieu de miracles. Il dit, oui, j'ai perdu mon enfant, mais je crois encore que Dieu est bon, je crois encore que Dieu est un Dieu de miracles. Ça m'a tellement touché. Ça m'a tellement aidé à changer de perspective, de me dire, oui, des fois on vit des moments difficiles, mais on peut quand même adorer ce Dieu-là. Et ça a été un moment décisif dans ma vie, parce que ce moment-là, imagine j'aurais écouté autre chose, j'écoutais un podcast ou une émission autre, mais ce moment d'adoration-là a changé ma perspective. Parce que oui, aujourd'hui, j'ai des enfants, mais j'adore Dieu. J'adore pas mes enfants, je les aime, mais j'adore Dieu. Puis ça m'a tellement aidé à revoir Noël. Pour moi, Noël, c'est une fête de célébration. Et justement, le troisième point ce matin, c'est qu'il y a un concret avec l'adoration. L'adoration, à l'époque, mais même aujourd'hui, dans plusieurs cultures, l'adoration est un geste physique. Et le texte prend le temps de nous dire qu'ils se sont agenouillés. Mais je ne vais pas le savoir ce matin pour les bienfaits de ceux qui nous écoutent en ligne, je vous salue. Souvent, l'adoration, c'est qu'ils s'allongeaient par terre. Imaginez la scène. Ils arrivent voir cette famille-là, cette famille défavorisée, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui se cache justement. Puis ces hommes-là s'allongent. Des hommes brillants, des hommes qui ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'allongent devant un enfant pour le louer, pour l'adorer. Puis moi, des fois, je ne sais pas pour vous, une fois j'arrive à l'église, je suis un peu froid aux mains, je n'ai pas envie de lever les mains ce matin. Je ne sais pas, ce n'est pas ma toune, je n'ai pas envie de lever les mains ce matin. Je ne suis pas le seul, hein? L'adoration concrète, c'est ça aussi. Puis on va prendre le temps de le faire après le message, de prendre d'avoir un moment d'adoration spéciale. Puis si tu ne l'as jamais fait, de juste dire... même si tu ne comprends pas tout, juste lever tes mains et d'adorer ce Messie-là, d'adorer ce Jésus-là, puis ça pourrait tellement avoir un impact dans ta vie. Et deuxièmement, il y a le concret ici de la valeur de la myrrhe, de l'encens. Puis moi, je crois que l'argent est une forme d'adoration. Il y a plusieurs personnes de notre église qui ont contribué financièrement à donner des cadeaux, plusieurs paniers à des familles. Dieu se réjouit et Jésus en parle souvent. Il dit, lorsque tu donnes aux pauvres, c'est à moi que tu donnes. C'est un acte d'adoration. Puis je veux nous féliciter, Mosaïque. On peut s'applaudir, bravo, good job, oui. Et lorsqu'il donne, lorsque les mages donnent ces cadeaux-là à cette famille-là, lorsqu'ils donnent les cadeaux pour ce bébé, pour le Messie, c'était les cadeaux qu'on offrait à un roi. C'était les cadeaux qu'on offrait au plus grand des dignitaires. C'était un cadeau qu'on offrait au plus grand des présidents que eux donnent à cet enfant-là. Ça m'a tellement parlé de me dire, si on comptait notre budget cadeau qu'on va donner cette année, tous les cadeaux qu'on va donner à les membres de notre famille, tous les cadeaux, puis il n'y a rien de mal contre les cadeaux, j'y crois, c'est correct, là, moi, c'est mon langage d'amour, comme je le disais. Mais si on comparait notre budget cadeau versus notre budget générosité, notre budget offrande, notre budget adoration, si on faisait une étude à travers le monde pour savoir combien les chrétiens donnent en cadeau versus en, justement, geste comme on l'a fait hier, en, pour l'Église, pour qu'ils voient que le message de l'Évangile se répande, pour justement les gens qui sont dans le besoin, si on faisait une comparaison, ça serait quoi le chiffre? Je n'ai pas de réponse ce matin. Mais que ça soit dans nos cœurs de me dire, qu'est-ce que je vais faire cette année? Puis on a encore le temps là, d'acheter un cadeau pour quelqu'un, de donner à quelqu'un, de donner pour des causes, de justement de dire, de s'opposer à justement cette société autour de nous, mais de nous dire, moi je vais bénir, je vais donner. C'est un geste d'adoration. Vous savez, ce que j'aime avec les Écritures, c'est que c'est aussi très intentionnel. Parce que lorsque j'étudiais ce texte-là, il y a un commentateur biblique qui a relevé quelque chose. Il dit que ces cadeaux, ce n'était pas seulement des cadeaux parce qu'ils sont allés au magasin puis ils ont choisi de la myrrhe, de l'encens puis de l'or. Non. Le Saint-Esprit a dirigé les mages. L'or avait un symbole. L'or symbolisait que Jésus était divin, qu'il était pur comme l'or. L'encens symbolisait l'aura qui venait avec ce leader, le plus grand leader de l'histoire. Le parfum qui faisait que tous les gens voulaient être avec lui, que les enfants s'accrochaient à lui, que cette femme s'est débattue pour toucher sa robe pour être guérie, qui était unique. Les gens voulaient passer du temps à sa présence, qui était complètement différent. L'encens symbolisait ça, qu'avait ce leader-là avait un parfum différent. La myrrhe symbolisait que cet enfant-là, on lui donnait ce cadeau. Mais on savait sa naissance servait aussi à sa mort, parce que la myrrhe servait à embaumer les morts. Et lorsqu'on donne ce cadeau, lorsqu'on donne la myrrhe à cet enfant-là, on sait qu'il va mourir par amour pour nous. Quel enfant, quelle naissance unique, quel sujet d'adoration ce matin. On adore celui qui est né et qui va mourir pour nous. Comme je vous ai dit, moi, je suis né le 25 décembre. Je vais inviter les musiciens à s'approcher pour qu'on aille dans l'adoration, justement. Je suis né le 25 décembre. C'est pour ça que je m'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Puis je suis très reconnaissant pour ce nom que ma mère m'a donné. Puis c'est un rappel même pour moi de me dire Dieu avec nous. Mais vous savez, ma mère le faisait avec tous mes frères et sœurs. Hein? Mais tous les matins, quand j'habitais chez ma maman, puis elle fait même encore aujourd'hui, elle m'appelle. Ma mère prenait le temps de venir prier pour moi. La première chose qu'elle faisait, c'était pas m'amener un cadeau. Non, même quand elle avait les moyens. La première chose que ma mère faisait, c'est qu'elle priait pour moi. Elle adorait Dieu, elle remerciait Dieu pour le fils que Dieu lui avait donné. Puis ça a toujours eu un impact. Moi, je le fais moi-même aujourd'hui. Quand à chaque fois, le jour de mon anniversaire, la première chose que je fais, j'essaie de le faire à tous les jours de ma vie, c'est de remercier Dieu pour la vie. C'est de l'adorer. Aujourd'hui, je suis père. Et l'ironie, c'est que ma fille est née quelques jours après moi. Dans le fond, elle est née le mois de décembre, fin du mois de décembre. Et on a toujours une excitation parce que c'est notre anniversaire. Mais je prends le temps de lui dire, Gloria, c'est la fête à qui en premier? C'est pas la fête à papa. C'est la fête de Jésus. Et puis, il y a ce personnage qui est le Père Noël qui est maintenant présent dans sa vie maintenant aussi. Mais je lui rappelle, Gloria, c'est qui nous donne des cadeaux tout au long de l'année? C'est qui prend soin de toi? C'est qui t'a donné ton papa et ta maman? C'est Jésus. Et puis, vous savez, je veux célébrer mon anniversaire, mais je ne veux pas perdre, je ne veux pas oublier son anniversaire à lui. L'importance de sa naissance, parce que sa naissance me rappelle qu'il est né pour mourir pour moi. Puis je veux transmettre ça à mes enfants, puis c'est tellement important. Dans cette société capitaliste, on va perdre le focus. Le vrai but de Noël, c'est d'adorer ce Messie ce matin. J'aimerais qu'on puisse le faire dans quelques instants, Mosaïque. Mais en conclusion, je veux nous poser des questions de réflexion. Comment le voleur de l'adoration veut t'avoir? y a une stratégie dans ta vie. Est-ce qu'il est en train de... Est-ce que peut-être que tu ne réalises pas, mais il a pris beaucoup de terrain dans ta vie. En t'éloignant de Dieu, en te gardant dans une tiédeur spirituelle où tu te dis, je pourrais être plus proche de Dieu, mais peut-être même pas envie de prier. Il y a une dépendance dans laquelle il est en train de te tenir. Où il y a des mensonges qui mettent dans ta tête qui fait que tu doutes de toi, mais tu doutes de Dieu. Il y a une relation que tu as dans ta vie qui t'éloigne de lui, littéralement. Puis que ta vie n'est pas en train d'adorer Dieu. Mais je veux juste te donner des pistes de réflexion, de juste commencer à être conscient, consciente de ça. Qu'il y a un ennemi qui existe et qui veut t'empêcher d'adorer ton Créateur. Oui, Noël, c'est une des périodes les plus stressantes. Mais est-ce que c'est une période de joie? Oui, c'est une période de fête. Mais est-ce que pour toi, la naissance de Jésus est une saison de joie? Est-ce que tu réalises que sa naissance est la meilleure des bonnes nouvelles qui puisse exister? Est-ce que tu l'adores concrètement? Félicitations d'être à l'église. C'est déjà une bonne chose ce matin, un acte d'adoration. Mais tantôt, je vais t'inviter à lever tes mains. Ton orgueil prend plus de place, puis t'es comme, non, moi, je ne fais pas ce genre de choses-là. Ou tu vas lui donner la chance de dire, je vais embarquer dans cette aventure d'adoration envers mon Créateur. Est-ce que t'aspires à l'adorer entièrement? Parce que l'ironie, ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'êtres humains, c'est qu'on compartimente. De dire, oui, Seigneur, je veux t'adorer avec mes mains. Non, mais pas avec mon argent, par exemple. Ou on fait l'inverse. Je veux t'adorer avec mon argent, mais lever les mains, non, je suis trop fier pour ça. Je veux t'adorer en louant Dieu à l'église, mais mon comportement, non, je ne veux pas le changer, Seigneur. Puis, personne ne peut être parfait, seulement Jésus l'était. Mais moi, j'aspire, Mosaïque, à l'adorer entièrement. À l'adorer avec ma vie, l'adorer avec mes mains, l'adorer avec mon portefeuille. Adorer le Créateur de l'univers, le Messie. Je vais vous inviter à vous lever avec moi, Mosaïque, alors qu'on va se préparer à adorer. Les musiciens vont commencer à jouer. Mais si on peut vivre un moment d'adoration ensemble, commence à le remercier. Essaie juste de lever tes mains. Si tu as trop de fierté, lève-les à 90 degrés à la limite. Mais juste essaye de le faire. Si tu ne l'as jamais fait, je te garantis, ça peut avoir un impact sur ta vie. De juste commencer à lui dire merci. Merci pour sa naissance. Dans tes mots à toi. Remercie-le pour sa naissance, pour la vie, pour tout ce qu'il a fait dans ta vie, pour tout ce qu'il a fait pour toi, puis que tu ne le réalises peut-être pas. Merci Jésus. Merci pour ta naissance. Merci pour ton existence. Merci parce que tu es né, mais tu savais que tu allais mourir à la croix pour nous. On veut te remercier ce matin. Seigneur, je veux te remercier. On veut t'adorer ce matin. On veut dire qu'il n'y a aucun Dieu. Il n'y a rien qui est plus important que toi sur terre. Puis on veut maintenant changer nos cœurs, qu'on puisse aimer Noël. Pas seulement pour toute la période des fêtes et les cadeaux, mais pour qui tu es, Jésus. Seigneur, je te prie qu'on réalise la bonne nouvelle que tu es, puis que la semaine prochaine, on va inviter des gens, on va partager cette bonne nouvelle avec d'autres. Seigneur, qu'il ne va plus en rester des papiers, des flyers, des dépliants, mais qu'on va en donner, Seigneur, à nos voisins, à nos amis, à nos collègues de travail, qu'on va partager la bonne nouvelle que tu es. Commence à l'adorer, commence à lever les mains dans tes mots, juste lui dire merci, juste adorer ton Sauveur, ton Créateur. Merci Jésus, merci pour ce que tu fais, on t'adore ce matin, Seigneur. Alors qu'on va chanter ces chants, Seigneur, reçois notre adoration. On te remercie pour qui tu es, pour ce que tu fais, ce que tu vas faire dans nos vies. Tu es le plus beau cadeau qu'on peut avoir, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta naissance. Merci pour ta vie. Merci pour ta mort.